chanteront le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Le merle moqueur.
Bonsoir. Cette émission, qui est préenregistrée donc le mardi 11 mars 2025, que vous allez entendre demain, donc le mercredi 12, est destinée à faire le point sur ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi le faire? Parce que aujourd'hui, les événements se précipitent et tout le monde est bien conscient, tous les protagonistes du conflit ukrainien, et ils sont nombreux, c'est le monde entier est concerné, au premier chef, bien sûr, les États-Unis, l'Europe, la Russie et indirectement tout le reste du monde. Et tout le monde est bien certain et convaincu que les derniers événements, les derniers soubresauts de la situation ukrainienne marquent l'arrivée d'un autre temps de ce pays. Et donc il est utile, et j'ai jugé utile, de revenir sur ce pays bien particulier, puisque je m'y suis intéressé, nécessité fait loi, on pourrait dire, puisque vous savez que Comaguer a commencé ses chroniques sur Radio Galère il y a un peu plus de 20 ans, et donc à aucun moment de cette longue histoire de ma collaboration et de mon intervention sur les ondes de Radio Galère, jamais l'Ukraine n'a été loin de mes préoccupations, et d'ailleurs des préoccupations de tous les observateurs de la communauté internationale et de tous les journalistes spécialisés et homme politique important de la période. Et donc c'est intéressant de rappeler ce parcours, puisqu'en fait il fait partie de mon histoire personnelle, de mon histoire militante, de mon histoire de journaliste bénévole, et il fait partie aussi de l'histoire de Radio Galère, puisqu'en fait Radio Galère, depuis le début de ma collaboration, qui date d'un peu avant 2014, même c'est plutôt plus près de 2002 ou 2003, je n'ai pas la date de la première émission que j'ai faite sur la radio, mais donc l'Ukraine a toujours été dans le champ de mes perspectives, et en regardant d'ailleurs dans les archives de Comaguer, j'ai pu constater le nombre de fois où le mot Ukraine apparaissait, le nombre de textes même, puisque vous savez que les chroniques que vous écoutez à la radio sont accompagnées par des bulletins qui sont diffusés sur Internet, et donc le nombre d'interventions, soit sur des sujets typiquement ukrainiens, soit où l'Ukraine était en jeu, était en situation, était un élément d'une situation plus large, est très très nombreux. J'ai beaucoup beaucoup de documentation et je me suis beaucoup investi, et donc j'ai de ce fait acquis la connaissance d'un certain nombre de tendances, de personnages clés, d'évolutions, de moments importants dans la transformation de ce pays depuis qu'il est indépendant. Et même avant, car on ne peut jamais parler de l'Ukraine telle qu'elle est sortie de l'ex-URSS au moment de la disparition, de la dissolution ou de l'effondrement, chacun trouvera le mot qui lui paraît le plus adapté, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais l'Ukraine était une de ces républiques socialistes soviétiques. Elle l'était parce qu'effectivement, de l'héritage de la Russie tsariste, donc qui avait été pris par les bolcheviks à partir de la révolution de 1917, dans cet héritage de la Russie tsariste, l'Ukraine était un morceau de la Russie tsariste, en gros dans les frontières qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Et donc l'histoire de l'Ukraine et des rapports avec l'URSS remonte à cette période-là, c'est-à-dire au tout début de la révolution bolchevique. Et pourquoi cette Ukraine faisait partie de l'Empire tsariste? Parce qu'à un moment donné particulier de son histoire, qui a été donc sous d'autres empires et sous d'autres gouvernements. Je pense en particulier sous des gouvernements polonais, sous des gouvernements lituaniens ou des gouvernements polono-lituaniens. L'Ukraine n'a pas toujours été rattachée à l'empire tsariste. Ça n'est arrivé finalement que relativement tardivement, donc c'est en 1648 qu'un hetman, donc un chef cosaque, disons pour faire simple, décide, qui est aux prises avec ses maîtres polonais et lituaniens, décide de demander du secours au tsar de la Grande Russie, celui-ci le lui accorde, et donc de ce fait l'Ukraine va rentrer. Elle a été longtemps donc dans l'empire tsariste pour ensuite passer dans l'URSS. On a donc là un début d'histoire commune, un début d'intégration, mais qui n'était pas acquis de toute évidence. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc ensuite, et là je vais très vite sur cette période-là qui est connue, mais en fait on a quand même cette révolution bolchevique, je rappelle, octobre 17, où les bolcheviks prennent le pouvoir de façon qui est un peu inattendue dans le reste du monde, et donc qui s'installe, et là déjà, la particularité ukrainienne, qu'on va retrouver tout au long de cette émission, la particularité ukrainienne apparaît. Elle apparaît parce qu'il y a dans cette Ukraine donc, qui est confrontée à cette Union soviétique qui n'a pas encore ce nom-là, mais à cette révolution bolchevique qui a eu lieu donc, à Leningrad, l'Ukraine se divise parce qu'il y en a qui sont assez favorables et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et dès là, déjà là, à ce moment-là très très précis, on a affaire en fait à deux Ukraines. À deux Ukraines, puisqu'entre 1917 en gros et 1920, sans que je rentre dans le détail de cette histoire qui en lui-même est déjà assez compliquée, il va se succéder à la tête de ce pays, donc dans la capitale Kiev, une série de gouvernements qui, pour la plupart, et même quasiment tous, sont tenus par des opposants à la révolution bolchevique. Ça, c'est très très intéressant de s'en souvenir, car dès ce moment-là, il y a dans cette Ukraine vaste, je ne vais pas rappeler que c'est le plus grand pays d'Europe, quand même, dans cette Ukraine vaste, des tendances, et même une coupure géographique qu'il faut bien positionner une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire il y a un ouest et un est. Alors c'est un peu simplifié, mais en gros avec une espèce de coupure qui est le fleuve qu'on appelle le Dniepr, donc qui coule, qui passe par Kiev, qui coule et qui descend vers la mer Noire où il va se jeter pas très très loin d'Odessa. On a donc deux pays. Et on a donc un pays de l'Ouest où sévissent, où s'installent un certain nombre de gens qui ne veulent pas de la révolution bolchevique, qui sont fortement opposés et qui sont en même temps antisémites, et ils vont le prouver très très vite après, mais qui sont des fascistes caractérisés, qui sont d'ailleurs opposés à ce qui s'est passé à Leningrad, parce qu'ils sont du côté de l'Empire austro-hongrois. Ils sont donc du côté des puissances qu'on appelle les puissances de l'intérieur, enfin les empires qui sont en train de mourir dans la guerre de 14-18. Et donc, dès ce moment-là, et ça va durer jusqu'en 1920, l'Ukraine est coupée en deux, mais elle est dirigée par des courants politiques et par des personnages qui sont favorables aux empires centraux, c'est-à-dire aux monarchies absolues, austro-hongroises, etc. Bon. Ça, c'est très très intéressant parce que cette coupure-là n'a jamais disparu. Et de 17 à 20, ceux qui dominent et ceux qui ont le pouvoir à Kiev sont ceux de l'Ouest qui sont du côté des empires centraux et qui sont anti-bolcheviques. Alors je ne dis pas anticommuniste parce que ça en fait partie, mais c'est plus compliqué que ça. C'est une dimension, donc ils ne veulent pas être sous la tutelle de Moscou. Et ils vont tout faire pour ne pas y tomber. Il se trouve que quand même, il y a dans cette Ukraine des gens aussi qui sont favorables à la révolution bolchevique, que ce soit dans les milieux paysans ou dans le milieu ouvrier, qui sont favorables à l'idéologie communiste, à l'idéologie au moins socialiste, et qui, eux, vont finir par faire basculer, donc dans une espèce de guerre civile, ils vont faire basculer l'Ukraine nouvelle dans le camp de l'URSS, qui ne s'appelle qu'en bas l'URSS, mais disons qu'on peut dire qu'en 1920, en gros, l'affaire est classée, c'est-à-dire que ceux de l'Ouest, les conservateurs monarchistes favorables aux puissances centrales, donc l'Empire austro-hongrois en particulier, sont battus, et donc les bolcheviks ukrainiens, puisqu'il y en a, prennent le pouvoir. Ils vont y rester assez longtemps puisqu'ils vont être de ce fait intégrés. L'Ukraine nouvelle, bolchevique, est intégrée dans la nouvelle Union des républiques socialistes soviétiques quand celle-ci se constitue. Je crois que la constitution est de 1922, mais c'est peu importe la date exacte, mais il faut savoir que ça, c'est la réalité, c'est-à-dire il y a un basculement, enfin, le choix de cette Ukraine qui est partagé fait que le partage s'est fait en fonction des régions de l'Est. Des régions de l'Est où les régions où on parle le russe, où on se sent russe, où on l'a été depuis assez longtemps, donc depuis 1648, et où on tient à le rester, et où en plus les aspirations sociales qui ont émané de la révolution bolchevique sont partagées. Donc tout ça s'intègre normalement, mais ça va laisser un certain nombre de traces, parce que ceux qui ont été battus, donc disons les conservateurs, assez, très proche de l'extrême droite, favorable à la monarchie des Habsbourg, etc., ceux-là vont laisser des traces dans l'histoire, puisque les différents personnages qui auront été à la tête de plusieurs de ces gouvernements un peu instables entre 1917 et 1920 vont fuir le pays et vont en même temps créer des courants politiques qui ne disparaîtront jamais. Et quand aujourd'hui, vous entendez parler de Bandera et des bandéristes, donc les successeurs idéologiques de Bandera, vous pensez, vous citez le nom d'un personnage qui est un des dirigeants de cette époque trouble de 1917 à 1920, qui s'est enfui après la prise du pouvoir par les bolcheviques, qui a été poursuivi par les services secrets soviétiques assez longtemps, au point qu'ils ont fini par le liquider quand ils ont mis la main dessus. Et puis il y en a un autre, dont je cite le nom parce qu'il est mélangé aussi à notre histoire de France, qui s'appelle Simone Petliura. Moins connu peut-être que Bandera, et ayant moins laissé de successeurs, car aujourd'hui il y a encore, et il y a dans Kiev il y a des statues de Bandera, il y a une réhabilitation de Bandera par le régime de Zelensky avant celui de Porochenko. Donc en fait, on a eu réhabilitation de leaders d'extrême droite, conservateurs, qui ont tenté d'échapper à l'influence russe et soviétique. Et donc, ce sont des personnages qui sont devenus des figures de proue centrales dans le régime ukrainien tel qu'il est encore à l'instant où je vous parle. Donc, souvenez-vous de Bandera, et on parle des bandéristes. Et on s'en revendique, et puis il y a toute une série de symboles graphiques. Enfin, je ne rentre pas dans ce détail, c'est connu. Mais disons qu'il y a un héritage de ces courant idéologique réactionnaire qui est très très vivant et qui a été entretenu depuis un certain temps, j'y reviendrai, sur le territoire de l'Ukraine contemporaine. Quant à Petliura, dont je citais le nom, alors autre personnage qui a été aussi un des dirigeants de ces républiques ukrainiennes éphémères dans les années 1720, lui c'est un autre destin qui l'attend, c'est-à-dire que il s'enfuit, il quitte l'Ukraine après la défaite donc des conservateurs réactionnaires dont il fait partie, et il va se réfugier. Alors il y a toute une série de péripéties, je n'entre pas dans le détail, mais il finit par s'installer en France, en pensant que là il va pouvoir être tranquille. Et en fait, il se passe que il va être rattrapé par son passé, c'est-à-dire que pendant la période, et ça c'est très très important parce que ça annonce ce qui va se passer dans une période qui va suivre, pendant la période donc de 17 à 20, les gouvernements ukrainiens vont se signaler par leur extrémisme, ils vont pratiquer les pogroms d'ores et déjà. Alors les pogroms c'est une... hélas, enfin, c'est une manie, c'est une maladie mentale et politique qui a existé dans l'Empire russe, on le sait, sous le tsarisme, qui a évidemment beaucoup sévi sur le territoire ukrainien. Et puis, antisémitisme, évidemment, donc tuer des juifs, c'est pas un problème, tuer des roms ou des gitans, appelons-les comme on veut, c'est pas un problème, s'en prendre à toute autre catégorie inférieure, etc. Bon, donc il y a là des racines qui ne sont pas mortes de positions d'extrême droite, qui sont vivantes à travers ce personnage de Petliura comme à travers le personnage de Bandera, même s'ils n'étaient pas forcément d'accord sur tout. Et Petliura, donc, je reviens à son histoire, se réfugie en France, et il se trouve que quelqu'un, on a retrouvé sa trace, parce qu'il y a aussi en France un certain nombre de survivants juifs des pogroms menés par le gouvernement de Petliura, qui savent que Petliura est à Paris, et un beau jour, un beau matin, un monsieur, donc, qui s'appelle Schwarzbach, donc un juif de Kiev, je ne sais pas s'il était de Kiev, peu importe, donc, arrive avec un pistolet, il a préparé son coup, il sait où habite Petliura, il le suit, et un beau matin, il arrive avec un pistolet et il tire 5 balles sur 6 qu'il a dans son chargeur sur Petliura, qui meurt quasiment sur le champ. Ça se passe en pleine rue, en plein Paris. On est en 1926. Et dès qu'il a fait ce geste, la foule s'assemble. Il y a un cadavre, il y a des coups de feu, il y a un assassinat qui vient de se produire. Dès qu'il a fait ce geste, Schwarzbach, jette son revolver par terre et dit « Oui, voilà, j'ai fait ça parce que je me suis vengé de ce qu'ils ont fait aux Juifs à Kiev et dans tout le reste de l'Ukraine. » Et donc, effectivement, la République française est bien embarrassée, mais il y a un meurtre qui est revendiqué par un personnage qui est là, Petliura, on sait qui c'est, et donc, nécessairement, il va y avoir un procès aux assises. On ne peut pas échapper à la législation française. Le procès a lieu. Le procès a lieu, et que va faire Schwarzbach dans ce procès? Eh bien, il va expliquer, documents à l'appui, quelques photos à l'appui, des témoignages. Il va expliquer ce qui est arrivé à la population juive d'Ukraine pendant le gouvernement de Petliura. Il va dire, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est rien. C'est une vengeance, oui, c'est une vengeance, parce qu'il y a de leur côté des centaines de milliers de morts. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un coup de colère, c'est des morts organisées, c'est des pogroms organisés de masse. Et à la surprise, peut-être pas générale, mais il tient sa position, il est défendu par un bon avocat, mais Petliura est bien défendu aussi parce qu'il a quand même été assassiné de sang-froid dans la rue, il y a bien donc un meurtre prémédité, enfin, tout est bon pour la... Enfin, au départ, quand le procès Schwarzbach commence, personne ne peut dire que Schwarzbach va être acquitté. Et c'est en fait ce qui va arriver. C'est-à-dire que la reconnaissance de ces actes antisémites de masse, de la destruction de juifs en masse, est reconnue par le tribunal qui dit effectivement, alors c'est un jury d'assises, donc il est partagé, on n'en a pas su plus, c'est vrai qu'on ne sait pas comment a voté chacun des jurés, mais toujours est-il qu'à la majorité, Schwarzbach est acquitté. Et l'aventure donc des nazis fascistes, on ne dit pas encore nazis à l'époque, mais des antisémites et des racistes ukrainiens, ils se terminent en défaveur de ces racistes. Bon, et pour ce qui me concerne, j'ai tendance à me féliciter que la justice française et le jury français aient fait ce choix, c'est-à-dire que la France ne se reconnaissait pas dans les actes qui avaient été effectués par aussi bien Bandera et ses amis que Petliura et ses amis. Et nous voilà entre les deux guerres mondiales. Nous voilà entre les deux guerres mondiales, et donc la Russie devient l'URSS, elle s'organise, et l'Ukraine devient une des républiques socialistes soviétiques qui constitue la fédération qui s'appelle l'Union des républiques socialistes soviétiques. Elle n'est évidemment pas seule, puisque depuis l'Ukraine le plus à l'ouest et la Biélorussie qu'on appelle aujourd'hui le Bélarus, jusqu'à l'autre extrémité du continent, donc quand on arrive au niveau de la Mongolie, par là, et qu'on arrive jusqu'à pratiquement au détroit de Bering, c'est-à-dire en face de l'Alaska, on arrive carrément aux États-Unis, il y a toute une série de républiques dont les noms sont toujours connus, car elles existent, elles ont survécu à l'explosion de l'URSS, qui sont, alors les noms sont connus, Kazakhstan, Tadjikistan, Turkménistan, Kyrgyzstan, donc tout ça fait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et donc on a déjà une espèce de mélange, pas un assemblement plutôt de gens extrêmement divers. Vous avez des gens de la steppe, des gens qui sont plus proches des Mongols dans leur façon de se comporter et de vivre dans la steppe longue, qui sont pour une majorité des musulmans, c'est vrai depuis le Kazakhstan jusqu'au Tadjikistan, qui peuvent être d'ailleurs des musulmans sunnites ou des musulmans chiites, qui parlent pour une bonne part d'entre eux, un langage proche du turc, sauf les Tadjiks qui parlent un langage proche du persan. Enfin, on a un assemblage qui a été voulu par les fondateurs de l'URSS, par Lénine, qui disait les républiques socialistes soviétiques sont ouvertes à tous les peuples qui décident de s'émanciper et de se gouverner eux-mêmes. Et donc, dans chacune de ces républiques socialistes soviétiques, il y a un parti communiste à sa tête, des structures de production, des structures de pouvoir qui sont copiées sur ce qui se passe dans la partie russe, donc là, ce qu'on appelle aujourd'hui la Fédération de Russie, sur ce territoire. Voilà ce premier panorama. Et donc, c'est ce qui se passe dans ces années, donc, de l'entre-deux-guerres. Et pendant cet entre-deux-guerres, donc ces républiques socialistes soviétiques se mettent en fonctionnement et un gros effort est fait du côté ukrainien par le pouvoir central. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, c'était vrai et ça le reste puisque c'est de la géologie, est extrêmement bien dotée en ressources naturelles, en particulier pour ce qui concerne les métaux et le charbon. Or, on est en pleine époque de l'acier triomphant. Et quand on a du charbon et du minerai de fer, effectivement, on peut produire de l'acier. Et puis, comme il y a du minerai de fer et du charbon dans d'autres républiques socialistes soviétiques, l'Ukraine va servir de base à la belle partie, disons, et la partie la plus avancée, la plus développée de l'industrie sidérurgique soviétique. On y fabriquera absolument de tout, du matériel militaire, du matériel civil. On y fabriquera des tracteurs parce que l'URSS se transforme considérablement, son activité agricole aussi. Et on ajoute à ça, autre avantage de l'Ukraine, les extraordinaires terres à blé, qu'on appelle les terres noires ou tchernozium, qui permettent à cette République socialiste soviétique de nourrir sa population et de nourrir une partie du reste de l'Union soviétique et même d'exporter ses produits vers l'extérieur. Donc voilà un pays donc richement doté par la nature, bien pris en main et bien organisé en tant que République socialiste soviétique et qui occupe une place de choix puisqu'on peut considérer, je le dis un peu en anticipant, que au moment où s'effondre l'URSS, il faut considérer, la plupart des économistes le font, que la République socialiste soviétique d'Ukraine est la république la plus avancée économiquement de tout le territoire soviétique. Elle est peuplée, on y reviendra, d'une cinquantaine de millions d'habitants, mais tout s'y fait. Alors tout s'y fait, mais là encore, tout s'y fait pas nécessairement au même endroit, puisque on va la retrouver, la géologie est un peu aussi où elle est porteuse, où elle est même peut-être la raison de ce découpage sociologique et ce découpage des opinions entre l'Ouest et l'Est. Le gros des richesses minières de l'Ukraine se situe dans la partie Est, donc la partie la plus proche de la Russie, et pas du tout dans la partie Ouest. Donc on va dire, je simplifie, mais par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la richesse, les principales richesses du territoire ukrainien sont chez les pro-soviétiques et les pro-bolcheviques et pas de l'autre côté. Et donc cette coupure qui a existé, je l'ai bien indiqué, dès 1917, va rester ancrée, puisqu'au fond, il y a une espèce d'envie, les habitants des territoires de l'Ouest, outre les différences idéologiques très très fortes qu'ils peuvent avoir tout en étant intégrés dans une économie socialiste soviétique, sont un peu jaloux et ne sont pas, et sont un peu à l'écart, même s'il y a redistribution avec les logiques soviétiques et tout, mais c'est pas là qu'est la richesse, la vraie richesse vive et l'activité économique la plus avancée du territoire ukrainien. C'est comme ça. Nous voilà donc arrivés à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne rentre pas dans ces détails-là qui sont connus, ça fait partie de la grande histoire générale, mais vous savez que les progrès énormes de l'Union soviétique, alors à marche forcée, l'Union soviétique a transformé totalement le territoire de l'URSS, s'est industrialisée au point que quand on arrive à proximité de la Deuxième Guerre mondiale, il faut considérer, et les chiffres le disent, que l'Union soviétique est la deuxième puissance industrielle mondiale. Évidemment, et je ne peux pas ne pas le souligner, cette croissance extraordinaire, à un rythme jamais vu, je rappelle qu'en face, dans le camp occidental, le camp anti-bolchévique, car il est anti-bolchévique et il s'affirme anti-bolchévique, On a eu la crise de 29, une crise qui s'est prolongée pendant plusieurs années, qui a affecté énormément les États-Unis, un peu moins les pays d'Europe, mais quand même pas mal. Et donc, face à cette partie, cet Occident, on pourrait dire, pour faire simple, en utilisant la géographie d'aujourd'hui, face à cet Occident qui est passé par une période très très difficile, l'URSS sort comme un nouveau géant qui s'impose. Et un nouveau géant qui s'impose, quand il a une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire qu'il est le plus grand État du monde, et qu'il est deux fois grand comme les États-Unis d'Amérique, il suscite à la fois de la jalousie et des appétits. Et ça, c'est un thème qu'il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire que les États-Unis qui ont pris la domination du monde malgré la crise de 29 et tout ce qui s'en est suivi, qui ont pris la domination du monde en partie à la fin de la Première Guerre mondiale où leur intervention a été décisive dans la fin du conflit, on le sait, et qui ont, dont la domination s'est concrétisée tout à fait clairement en 1945 quand ils ont pris la tête de la coalition anti-hitlérienne, les États-Unis sont embarrassés par ce pays trop grand, trop riche, ayant toutes les ressources naturelles possibles, du pétrole, du gaz, tous les minerais de la création possible, des ressources en eau, des terres à blé extraordinaires. Tout ça fait qu'il y a une certaine jalousie qui est, je pense, pour l'Empire, puisque les États-Unis sont un empire, insupportable. Et pour les élites, ceux qui dirigent ce pays et qui se croient, et qui l'ont écrit, c'est pas moi qui le dis, qui se croient d'une essence, hein, la nation exceptionnelle, la nation qui guide le monde. Tout ça fait que cette nation qui guide le monde a un peu de gêne à avoir ce grand pays-là qui est puissant. Et donc, l'idée d'avoir à lui faire des misères, je simplifie, mais est une idée qui est riche. Et il faut bien voir que quand Hitler arrive au pouvoir, son souci n'est pas du tout... Alors, son souci est d'aller embêter la France et la Grande-Bretagne. Alors, ça réussira en France, ça ne réussira pas en Grande-Bretagne. Mais son souci, c'est d'aller chercher, déjà, souvenez-vous, c'est très très important, c'est d'aller chercher ce qui manque à l'Allemagne, c'est-à-dire que les ambitions de Hitler et des nazis et de tous ces collègues, de la grande bourgeoisie qui va soutenir Hitler, Hitler n'est pas un phénomène d'un marginal qui arrive. Alors lui en tant qu'individu c'est un marginal, mais derrière Hitler il n'y a pas des marginaux, il y a la grande industrie allemande et derrière il y a le capitalisme états-unien qui est déjà très très présent en Allemagne. Et donc l'idée qui mûrit dans les cerveaux occidentaux, qu'ils soient britanniques ou états-uniens, c'est de dire Hitler va nous servir pour aller casser l'URSS et pour dépecer l'URSS. Et c'est bien ça l'objectif. Et Hitler en est porteur en disant, mais bien sûr, je vais prendre l'URSS parce que je vais me servir en terre à blé, je vais me servir en minerai de fer, je vais me servir en charbon, je vais me servir en nickel, je vais me servir en cuivre, je vais prendre tout ce que je n'ai pas sur mon territoire. Alors non pas qu'il n'y ait pas de mines de charbon en Allemagne, on sait qu'il y en a, mais enfin, rien à la même échelle et surtout pas d'énormes terres agricoles, d'énormes espaces et du pétrole. Car l'Allemagne est dramatiquement dépourvue de pétrole comme de gaz naturel, et donc elle cherche des ressources énergétiques, d'autant plus que quand on est à la tête d'une armée comme l'armée du Reich, avec son aviation très très avancée, ses chars d'assaut, on a besoin de carburant pour mettre dans la machine de guerre. Ce carburant, il est chez les Soviétiques, il faut aller le prendre. Il n'y a rien d'autre, enfin si, il y a beaucoup d'autres motifs derrière, mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. Derrière ça, il y a cette volonté de s'approprier et de prendre possession des richesses soviétiques, à commencer par les plus proches, les richesses ukrainiennes. Et c'est par là, évidemment, que va commencer la grande guerre du Reich, donc des Hitlériens, contre l'Union soviétique. Et bien entendu, la géographie l'impose. Par où on passe? On passe par l'Ukraine, qui est le premier endroit, et on passe par l'Ukraine et la Biélorussie, avant d'arriver au cœur même de la Russie. Et Dans un premier temps, effectivement, l'armée du Reich, l'armée nazie progresse, l'armée soviétique résistera petit à petit, mais l'armée du Reich, l'armée nazie, sera rentrée très profondément dans le territoire soviétique, au-delà même de l'Ukraine, puisque ça s'arrête, vous le savez tous, à Stalingrad. Stalingrad n'est pas en Ukraine, c'est déjà dans la Russie, j'allais dire profond, dans la Russie de plus loin. Et puis il y aura la suite des événements est connue, donc le retour de bâton, c'est-à-dire que après avoir beaucoup reculé, l'URSS se refait des forces et elle va mener une contre-attaque qui amènera à un résultat qui, je le rappelle, est très très important pour nous, Français et Européens, c'est-à-dire que c'est l'armée soviétique qui viendra détruire le Reich directement à Berlin. Parce que les autres, la France, en situation difficile, j'insiste pas. Les États-Unis attendent à quelques dizaines de kilomètres de là que l'affaire soit réglée. Les Britanniques aussi. C'est donc l'Union soviétique qui a liquidé le nazisme de la surface de la Terre. Alors, elle a liquidé le nazisme, mais pas tous les pro-nazis, puisqu'il en est resté. On y reviendra un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette période donc, où l'armée du Reich, l'armée hitlérienne, avance en Ukraine, va un peu au-delà vers l'Est, au-delà de la frontière ukrainienne de l'Est? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe un phénomène qui ressemble par beaucoup de traits à ce qui s'est passé entre 1917 et 1920 sur le territoire ukrainien de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des soldats soviétiques ukrainiens qui se battent contre l'envahisseur hitlérien, mais il y a des gens qui décident de collaborer, qui sont très contents d'accueillir les nazis sur leur territoire. Alors ils sont contents pourquoi? Parce qu'ils retrouvent dans l'idéologie et dans le fonctionnement des SS et dans les objectifs des SS et des nazis, des objectifs qu'ils partagent depuis le début. C'est-à-dire que l'antisoviétisme dans son porteur, avec le sang qui va avec les nazis, les SS et tout, l'antisémitisme, il était déjà là en 1917. Donc il n'y a pas de surprise. Une partie, toujours la même partie, cette partie surtout la plus occidentale de l'Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui, va tomber entre les mains non seulement des nazis, mais elle va être contente d'être du côté des nazis et de ne pas être du côté des Russes. La coupure, elle est là encore, une nouvelle fois, flagrante, vive et violente, parce qu'il faut savoir que là aussi, les soldats... Les Ukrainiens, disons, qui vont basculer, qui vont aider, qui vont collaborer, le terme s'adapte tout à fait à cette chose-là, les Ukrainiens qui vont collaborer avec l'occupant nazi vont faire le même travail que lui et vont lui servir même de main-d'œuvre d'appoint, et même souvent les unités SS sous-traiteront les pogroms, sous-traiteront les assassinats de masse de juifs aux Ukrainiens. C'est-à-dire qu'on a une harmonie idéologique totale. On est entre nazis, nazis ukrainiens et nazis allemands. On pense la même chose, on a les mêmes haines, on a le même racisme profondément ancré en soi. Et donc, on s'exprime très librement. Enfin, ces gens-là, je le mets entre guillemets, ces gens-là sont bien en milieu nazi. Ils sont bien sous la coupe d'un régime nazi. Et d'ailleurs, le régime nazi, les laisse volontiers faire cette part du travail. Alors, quelquefois, ils sont un peu disciplinés, ils en font un peu trop, ils en font pas assez et tout, mais au fond, ça se passe très, très bien. Ça se passe très, très bien, puisque sur l'idéologie, on est d'accord, et donc tout marche bien jusqu'à ce qu'effectivement, la grande URSS décide de contre-attaquer et de liquider elle-même le nazisme. Alors, quand vous entendez, on n'a pas voulu l'entendre ici, que dans ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale, donc qu'annonce Poutine au mois de février 2022, qu'il s'agit d'éliminer le nazisme, il s'agit bien d'éliminer un courant de la société, de l'opinion ukrainienne, qui a toujours été vivant et qui est pro-nazi idéologiquement, qui n'a pas changé là-dessus. Alors il est nostalgique puisqu'il n'y a plus de nazis. Alors il n'y a plus de nazis, on en reparlera parce qu'en fait, il apparaît justement, il est apparu depuis le début de l'opération militaire spéciale, qu'il restait des nazis et on va les retrouver tout au long de cette histoire plus récente. Nous voilà donc arrivés en 1945. Donc l'URSS vient de faire tomber le Reich, le Berlin est tombé, le drapeau rouge est hissé sur le Reichstag, sur le Parlement de Berlin, et donc le Reich, les nazis sont défaits. Ils sont pas tous morts, et on sait qu'une bonne partie d'entre eux, des dirigeants en particulier, des scientifiques, des militaires, seront recyclés par les États-Unis. Et utilisé en particulier, on sait que la CIA a été créée aux États-Unis par un ancien responsable dirigeant des services secrets nazis. Bon. Donc il y a une affinité. Alors, non pas que les États-Unis soient porteurs d'une idéologie nazie en tant que telle, mais dans leur volonté de domination du monde, s'il y a un nazi qui peut aller faire le sale travail que les États-Unis n'ont pas à faire eux-mêmes, eh ben, c'est très bien comme ça. Et on retrouvera cette attitude dans la position des États-Unis, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en dire un mot dans cette émission, dans le soutien que les États-Unis ont apporté au terrorisme islamiste, on a la même position. C'est-à-dire, nous, on est propre, on est au-dessus de ça, mais s'il y a quelqu'un qui peut faire tomber un gouvernement, qui peut renverser un régime ennemi, etc., si c'est des terroristes islamistes, ce n'est pas grave, à la limite même, on les aidera. Mais ce n'est pas mon propos au moment où je vous parle. Et donc, on est en 45. Donc, en 45, l'URSS est vainqueur, l'ONU se met en place, on met en place la charte de l'ONU, etc. Et Staline se retrouve à la tête d'un pays qui a énormément souffert, énormément souffert. La victoire lui a coûté cher, en destruction. Parce que beaucoup a été détruit, disons, dans toute la partie occidentale de l'URSS, qui a beaucoup souffert en termes humains, puisqu'on sait que la guerre, la grande guerre patriotique, comme on l'appelle en URSS et en Russie encore aujourd'hui, a coûté à ce pays entre 25 et 30 millions de morts. Alors, rapporter ça aux 300 000 morts de l'armée des États-Unis, quelque chose d'un peu plus important pour la France, mais c'est sans commune mesure. Le seul pays qui a autant souffert de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Chine, comme par hasard, qui, elle, n'a eu que 12 à 15 millions de morts dans sa guerre contre les Japonais, là. Mais les pays qui ont le plus souffert dans la Deuxième Guerre mondiale, humainement, en termes de pertes humaines, c'est l'URSS et la Chine, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Les autres ont conduit les batailles, mais surtout des batailles matérielles, avec une capacité industrielle extrêmement forte, une grosse production, des armements assez avancés, quelquefois armements de pointe, je pense à l'arme atomique, on en dira un mot un peu plus tard. Mais voilà ce monde de 45. Alors que fait Staline? Que fait Staline? Il sait que le pays a beaucoup souffert, mais il sait aussi ce qui s'est passé en Ukraine, et il fait un pari. Je le présente comme ça parce que je pense que c'est vraiment un pari. Il dit, bon, il sait, alors il sait effectivement, il sait ce qui s'est passé en 1917, il était déjà jeune militant bolchevique, il sait ce qui s'est passé donc pendant la Deuxième Guerre mondiale avec cette complicité avec les nazis de cette partie-là des Ukrainiens. Et il tente le pari, je considère, je l'appelle comme ça, il tente le pari de dire, on va essayer de rassembler tout ça, c'est-à-dire je sais qu'on a une grosse base industrielle, une population qui, pour une majorité, mais relative, est favorable et très pro-communiste, pro-socialiste, donc. Et dans la mesure où ce pays, cette république, a un potentiel économique, on va tenter le jeu de les faire travailler ensemble et de les faire progresser ensemble. C'est ça le pari. Ça sera moins compliqué du côté du Bélarus, puisqu'au fond, le Bélarus, lui, d'abord, a été énormément. Il faut savoir qu'il est mort en Biélorussie entre le passage de l'armée nazie d'est en ouest, puis ensuite le retour dans l'autre sens, a coûté en gros à la Biélorussie un tiers de la population. Un tiers de la population mort pendant la guerre. Alors, ramenez ça à l'échelle de la France, 40 millions d'habitants à l'époque, vous comptez 12-15 millions de morts pendant la guerre. On n'a jamais connu ça, et le Bélarus l'a connu, l'Ukraine l'a connu dans une moindre mesure, etc. Bon, voilà le pari, ce qui est, à mon avis, le pari de Staline. Essayer de dire, je sais qu'il y a des gens dont je me méfie, qui ont fait des atrocités, mais je parie sur la partie saine, la partie donc russe classique, et donc je parie sur la partie la plus industrialisée et des personnes qui parlent le russe, d'abord qui ne parlent pas l'ukrainien, et qui sont profondément de cœur russe. Même si, en fait, ils ne sont pas. Enfin, pourquoi la frontière est passée là, on ne sait pas trop, peu importe. Enfin, c'était l'héritage des années antérieures à la chute du tsarisme. Bon. Et voilà le pari. Et voilà donc cette Ukraine, qui est donc très avancée économiquement, qui se reconstruit très très vite, comme le reste de l'URSS, et qui va commencer à susciter des envies. Et puis, il va se passer en Ukraine ce qui s'est passé progressivement donc après la mort de Staline, c'est-à-dire une espèce d'énormes progrès économiques, la reconstruction d'abord, d'énormes progrès économiques, des grandes avancées scientifiques. Je rappelle que c'est quand même l'époque où l'URSS lance les premiers satellites artificiels, des choses comme ça, donc des avancées technologiques très, très spectaculaires. Et en même temps, un pays qui est toujours travaillé par ces deux moitiés qui sont antagonistes et qui l'ont été à chaque occasion historique qui se présentait tant qu'il n'y avait pas un pouvoir un peu fort qui imposait à ce que tout ce monde-là vive ensemble. On en arrive à une notion que j'ai retrouvée dans un texte qui est très très intéressante, puisque beaucoup d'observateurs impartiaux ont dit l'Ukraine, c'est un État sans nation. Donc c'est un État avec des frontières, c'est un grand État en surface, qui a des structures d'État, que ce soit une république socialiste ou une république pas socialiste après 1991, mais il n'y a pas une nation ukrainienne. En fait, il y en a deux. Il y a dans l'Ukraine, il n'y a pas deux nations ukrainiennes. Il y a une nation qui est plutôt une nation russe et qui se vit en tant que nation russe, qui parle le russe, c'est sa langue, qui a des affinités de l'autre côté de la frontière. Et puis il y a une nation qui n'est pas russe, qui déteste les Russes. La russophobie est à l'ordre du jour, est une activité quasiment permanente dans cette partie-là, dans la partie ouest du territoire. Donc on a bien affaire à un État constitué, avec ses frontières qu'on connaît, sans nation. Et cet État, il va être confronté donc à des évolutions qui sont celles de l'Union soviétique en général, et il va être confronté à ce qui va se passer, enfin à la chute de l'URSS, à son explosion, et il va avoir là encore un rôle très très particulier. Ce rôle très très particulier est encore accentué parce qu'il faut savoir, et c'est assez étonnant, et même un peu surprenant, que quand l'ONU est constituée, l'URSS a évidemment sa place, et sa place, toute sa place, et elle est au Conseil de sécurité, mais l'URSS va être représentée à l'ONU, donc au Parlement international d'une certaine façon, par trois républiques. La République de Russie, la Fédération de Russie, on dirait aujourd'hui, l'Ukraine et la Biélorussie. Et pas du tout les autres. C'est-à-dire là, il y a une espèce de coupure qui est une espèce de coupure culturelle entre le monde russo-européen, qui va avoir trois représentants à l'ONU, trois États à l'ONU, et tous les autres. Hein, je pense aux Kazakhs, je pense aux Turkmènes, je pense aux Kirghizes, qui n'existent pas. Ils sont dans l'URSS, un point, c'est tout. Et donc, ce traitement-là va donner des idées d'indépendance à la fois à la Biélorussie et à la fois à l'Ukraine. Le fait d'avoir été, alors vous imaginez, dans la gestion d'un État, ça veut dire que l'Ukraine avait des ambassadeurs, avait un représentant permanent à l'ONU, la Biélorussie pareil, et donc ça vous donne une position d'État qui n'est pas celle d'un petit morceau, et que ni les Kazakhs, ni les Turkmènes, ni les Kirghizes, ni les Tadjiks n'ont eu. C'est-à-dire qu'on a une espèce de coupure entre les vrais de l'Ouest, hein, ceux qui sont avancés, j'allais même dire un peu une coupure un peu raciale, c'est-à-dire que là, on est entre blancs, et puis quand on arrive plus loin, on est entre descendants des Mongols, toute une série de nationalités, de pays, etc., divers, hein, qui ne sont pas des blancs, qui sont des pays, on pourrait dire, bien que l'expression n'est plus court, pour dire, c'est un peu le tiers-monde de l'URSS. Quoique ça n'enlève pas que l'URSS a fait de gros efforts pour qu'il y ait industrialisation, développement, etc., pour que ces pays, il y a éducation, bien entendu, formation, ces pays se transforment comme ils ne se seraient jamais transformés tout seuls, mais ils ne sont pas politiquement au même niveau, ils n'ont pas le même statut. Et on va en arriver donc à cette période où l'URSS fatiguée, l'URSS où manifestement la guerre froide a posé des problèmes, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup fait d'efforts pour maintenir avec l'adversaire stratégique, les États-Unis, la parité nucléaire. Ça, c'est très très important pour la compréhension du phénomène. C'est-à-dire que l'URSS a probablement fait, elle a fait d'énormes efforts, ça lui a coûté extrêmement cher. mais elle a réussi à éviter la guerre atomique sur la planète. Car il est évident, et tout ce qu'on a pu lire sous la plume des stratèges des États-Unis à partir de 1945, c'était de dire, et je le dis pour ce que c'est, parce que c'était écrit, maintenant que nous avons l'arme absolue, appelons ça comme ça, tout le monde doit être à nos pieds, tout le monde doit être à nos pieds, et si quelqu'un bouge, on va le menacer de lui faire non pas un Hiroshima, mais 10 Hiroshima ou 10 fois la puissance d'Hiroshima. Et donc, en fait, le monde entier est tétanisé par l'arme nucléaire. Sauf que, ça c'est un discours qui se tient de 1945 à 1949, sauf que en 1949, l'URSS, à marche forcée, a réussi à fabriquer sa première bombe atomique. Elle fabriquera ensuite, très vite après les États-Unis, sa première bombe H. Et à partir de ce moment-là, on arrive dans ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Équilibre de la terreur qui est réalisé par le fait que l'un peut tuer l'autre. Et donc ça va se concrétiser par des rapports particuliers, c'est-à-dire on se parle, on accepte même de situer des traités pour pas dépenser trop dans l'arme atomique, disons ben, si tu as 3000 bombes d'un côté, 3000 bombes de l'autre, et puis tant de bombardiers, puis tant de sous-marins et tout, bon, c'est pas la peine de s'épuiser l'un et l'autre, mais en fait ce qui se passe c'est que l'URSS va plus vite s'épuiser, elle maintiendra la parité nucléaire, mais elle s'épuisera, et donc on aura une économie affaiblie, une société affaiblie par le fait que, à la différence du mode de vie occidental, le mode de la vie à l'américaine, hein, je symbolise, mais c'est facile à dire, mais c'est ça qui est vendu, c'est-à-dire les magasins pleins, les rayons des supermarchés, l'URSS fait pauvre figure. Donc elle tient le choc militairement, il n'y aura pas de choc militaire, elle évitera, et elle évitera la guerre mondiale, et moi je tire mon chapeau, parce que si nous n'avons pas eu de guerre atomique, c'est parce que l'URSS était là, il ne faudra jamais oublier de le redire, mais l'URSS s'est fatiguée. C'est fatigué par cet effort démesuré. Et pendant ce temps-là, les autres faisaient avancer leurs affaires, vous l'imaginez, mais ce n'est pas le sujet de cette émission. Nous voilà donc arrivés, donc cette URSS qui s'effondre, on est entre donc la chute du mur de Berlin et la dissolution de l'URSS. Alors, je passe rapidement sur ces événements qui sont connus. Et qu'est-ce qui va se passer à l'endroit qui nous intéresse, c'est-à-dire l'Ukraine? Alors il va se passer quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que, là encore, la particularité de ces deux républiques qui sont soviétiques, mais qui sont quand même un peu plus soviétiques que les autres, ou un peu moins soviétiques que les autres, ou un peu particulières, donc l'Ukraine et la Biélorussie, va faire que leur destin va être commun. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, à un moment donné, on sent bien que Gorbatchev, qui est à la tête de l'URSS, a décidé qu'il fallait arrêter la partie. Alors, je ne m'attarde pas sur le personnage de Gorbatchev, qui est considéré aujourd'hui par beaucoup de Russes comme un traître qui a vendu le pays ou qui a détruit le pays, mais toujours est-il que Gorbatchev décide de dire, il faut arrêter ça, tout ça ne marche plus. Effectivement, ça ne marche plus parce que, de toute façon, le peuple soviétique a perdu la confiance dans ses dirigeants. Et donc, il est déboussolé, et il voit que les magasins ne sont pas pleins, qu'on fait la queue, etc., etc. Et donc, il a une espèce d'envie d'Occident, que la propagande occidentale va évidemment usufruiter au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, mais cette envie-là est réelle. Et donc Gorbatchev dit, bon, il faut arrêter, j'arrête. Et puis évidemment, il est très très content. Enfin, le camp d'en face est très content, que ce soit Reagan et puis le papa Bush en même temps, qui disent, ben, très très bien, maintenant, cet adversaire, qui est un adversaire historique, vous voyez, ce grand pays, deux fois grand comme les États-Unis, ayant toutes les richesses possibles, du pétrole, du gaz en quantité, etc., est en train de s'effondrer. Bonne, bonne affaire, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et donc, on va profiter, on va commencer à ramasser les morceaux de ce qui s'écroule. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et cette idée, elle est proposée. Alors, il faut savoir que, et ça, on le dit très très peu en Occident. On est au printemps 91. Il y a un référendum qui est organisé dans la plupart des républiques socialistes soviétiques. Pas dans toutes d'ailleurs, parce qu'il y en a un certain nombre qui ne veulent pas, qui disent non, non, l'URSS, on l'a assez vu. Alors je pense aux Pays-Baltes, je pense à la Géorgie, je pense à l'Arménie, je pense à la Moldavie. Mais toutes les autres républiques socialistes soviétiques votent pour un référendum pour savoir s'il faut continuer l'URSS ou pas. Et la majorité se prononce pour le maintien de l'URSS. Alors ça a été caché, y compris la majorité des Ukrainiens se prononce pour le maintien de l'URSS. C'est-à-dire avec ce qu'ils savaient de la stabilité de l'emploi, de choses comme ça, et du régime socialiste, de l'accès à la formation, de la santé gratuite en général, de la formation de bon niveau, etc. Donc tout ça, ils acceptent. Hein. Retenez bien, 70% de la population de l'URSS et veut continuer l'URSS. Sauf les quelques républiques qui sont déjà un peu à la marge à l'ouest, dont je vous ai cité les noms. Que croyez-vous qu'il se passa ? Eh bien, tout le contraire. C'est-à-dire qu'un beau matin, trois dirigeants, ceux de ces pays un peu particuliers, le Bélarus, la Biélorussie comme on l'appelait à l'époque, l'Ukraine et la Fédération de Russie, l'URSS qu'il en reste, se réunissent dans un bois comme des voleurs, comme des tricheurs, comme des clandestins, ils se réunissent dans un bois et ils décident de faire éclater, l'URSS. Retenez bien ça, on est le 8 décembre 1991 et trois personnages, presque clandestinement, décident de détruire l'URSS en la faisant voler en éclats. Et ces trois personnages sont le président de la République socialiste soviétique d'Ukraine qui s'appelle M. Kravchuk, le président de la République socialiste du Bélarus qui s'appelle M. Chouchkevitz et le président de la République de Russie qui s'appelle M. Eltsine. Retenez cette date, elle est tout à fait importante. Et retenez aussi ceci, que M. Eltsine, retenez bien que quand ce vote... C'est facile, ils étaient trois, ils étaient complices, ils étaient d'accord, il n'y avait personne pour les observer. Enfin, juste leur garde du corps et leur chauffeur. Bon, c'est comme ça que c'est fini l'URSS. C'est une espèce de... comme une comédie de boulevard de mauvais goût et de mauvaise qualité. Que fait M. Boris Eltsine ce 8 décembre 1991 ? M. Boris Eltsine téléphone à M. Bush, président d'Italie, en lui disant « ça y est, l'affaire est réglée ». Et Bush n'attendait que ça. Pourquoi il n'attendait que ça ? Parce qu'il avait bien compris, succédant donc après Reagan et ses trois mandats, il avait bien compris que l'URSS était fatigué. Fatigué par la course à l'armement nucléaire, fatigué par la reconstruction, fatigué certainement par la saignée démographique qu'a représenté la Seconde Guerre mondiale, c'est évident, et il savait que la proie, je dis bien la proie parce qu'il s'agit bien d'un phénomène de prédation de masse au niveau mondial. La proie soviétique était prête à être croquée. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant les années qui précèdent la chute de l'URSS, il y a un continent et il y a une création qui s'est faite, là aussi inventée par les États-Unis, qui s'appelle le marché commun, l'Union européenne et tout. C'est-à-dire que petit à petit, à travers l'Union européenne et surtout l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord, petit à petit, l'armée des États-Unis, puisque c'est ça l'OTAN, c'est l'armée des États-Unis et puis quelques petits serviteurs accessoires, l'armée des États-Unis se rapproche petit à petit de la Russie, dont elle veut la fin. Et c'est comme ça que vont rentrer tout d'un coup dans l'OTAN la Pologne, la République tchèque, j'en passe, et les meilleurs. C'est exactement ça qui s'est passé. Et donc, ce qui s'est passé était contraire aux engagements qui avaient été pris par le chef de la diplomatie des États-Unis, qui s'appelait à l'époque M. James Baker, qui avait promis, au moment où la réunification allemande se fait, les Soviétiques sont consultés, et on leur dit « Non, mais on met ensemble l'Allemagne fédérale et la République démocratique allemande, mais c'est tout, on s'arrête là, simplement, on remet l'Allemagne ensemble, ils ont été séparés par le rideau de fer, la guerre froide, etc. On les remet ensemble. Mais c'est tout. » Et donc, l'ensemble des ambassadeurs occidentaux, y compris, d'un autre côté, un certain François Mitterrand, passent leur temps à dire aux soviétiques de l'époque, donc à Gorbatchev et à son équipe, « Ne vous inquiétez pas, on a réuni les deux morceaux de l'Allemagne qui étaient divisés, c'était dommage, les Allemands, etc. etc. » Bon. Mais on n'ira pas plus loin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que profitant donc de l'affaiblissement de l'URSS, ce qui se passe, c'est que l'OTAN va continuer à progresser. Elle va progresser jusqu'en 1999, et puis elle va continuer à progresser après. L'Ukraine, dans ce cas-là, que devient l'Ukraine après 1991? Eh bien, l'Ukraine, c'est le premier morceau que le camp occidental et que les États-Unis veulent croquer, c'est évident. Alors, le président Kravchuk s'y prête très, très volontiers, et puis quand il est remplacé par le président Kouchma, ça ne fait que croître et embellir, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'aspiration de la population ukrainienne à vivre à l'occidental, et tout est fait, du point de vue de la propagande occidentale, du point de vue des intérêts occidentaux, pour intégrer. Alors, je cite un exemple, ça paraît ridicule à l'échelle de l'histoire, mais faire venir en Ukraine un concert des Beatles qui est acclamé sur la grande place de la ville, ça veut dire regardez comme c'est sympa l'Occident, regardez comme c'est joli, regardez comme on s'amuse, regardez comme c'est gai. Et puis montrer qu'en plus, tout ça se fait sur un fond d'argent facile. Il y a de l'argent. Cette idée-là. Et donc cette idée-là, elle est portée dans la population, et donc petit à petit va se poser la question de où va cette Ukraine nouvelle, qui est donc libre du joug, ce n'est pas le cas d'ailleurs, enfin, qui est libérée de la tutelle de Moscou, où va-t-elle aller? Et là encore, on va la retrouver, toujours cet État sans nation, on va la retrouver coupée en deux. Coupé en deux entre ceux de l'Ouest qui sont farouchement pro-occidentaux, qui sont prêts à tout pour aller du côté de l'Occident, et puis ceux de l'Est qui disent quand même, bon, nous on est russophones, on a les principales industries les plus développées sont chez nous, on a beaucoup de voisins, on va souvent en Russie, on a de la famille, on s'entend bien, le pays est à nouveau divisé. Et il va être travaillé au corps pour essayer de tomber du côté occidental. Alors, travailler au corps, ça veut dire propagande, corruption, enfin, toutes les techniques qu'on connaît bien, pour essayer de faire basculer ce pays. En termes de majorité électorale, je ne l'ai pas dit, mais cette coupure sur laquelle j'insiste d'un bout à l'autre, elle se retrouve pratiquement tout le temps en matière électorale. C'est-à-dire que si vous faites un référendum dans l'Ukraine, vous êtes toujours autour de 50%. Quelquefois, c'est l'Est qui a 52, quelquefois, c'est l'Ouest, mais la coupure est liée, elle se voit dans les résultats de toutes les élections depuis qu'il y en a eu. C'est tout à fait clair. Ce pays, il n'y a pas de nation ukrainienne, c'est tout aussi simple que ça. Il y a deux morceaux rassemblés pour des besoins de puissance extérieure à ce pays. Bon. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la part des États-Unis qui veulent vraiment faire tomber l'Ukraine dans le bon côté et qui vont accompagner ce mouvement d'une extension de l'OTAN au plus près des frontières de la Russie, parce que c'est le moment en 2004 où l'OTAN s'agrandit et s'ajoute la Roumanie, la Bulgarie, et une tentative pour la Géorgie et tout. Donc, c'est-à-dire que la Russie, qui donne sur la mer Noire, est dans un pays entouré de membres sur le bord d'une mer qui, par ailleurs, est entouré que de puissances de l'OTAN. La Turquie au sud, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie n'est pas encore, mais pourrait y être. Voilà. Et donc, en fait, il n'y a plus que cette Ukraine qui pose problème, et c'est là que tout va se cristalliser. Ça se cristallise sous la forme d'un premier coup d'État dont on a oublié un peu l'existence, mais coup d'État qui a réellement eu lieu, fabriqué comme ça par des agences de publicité, fabriqué par des personnages qui ont été formés à l'action de rue, etc. Un premier coup d'État qu'on appelle la Révolution Orange. Il s'agit donc, à l'occasion d'une élection présidentielle, de faire basculer la victoire dans le camp des pro-américains, pour faire simple. Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit et pas d'autre chose. L'Europe suivant le mouvement, mais sans le maîtriser même du tout. Ça donne un événement qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a une élection donc, présidentielle de 2004 qui, au deuxième tour, donne la victoire au camp de l'Ouest. Donc un monsieur qui s'appelle, on en reparlera, qui s'appelle M. Yanukovych, qui est lui-même un milliardaire très très riche et pas très intéressant politiquement, mais qui est assez pro-russe, qui a ses intérêts dans l'Est, qui a des amis en Russie, qui parle russe couramment comme tous ses voisins et tous ses électeurs. Et donc, M. Yanukovych gagne. Et là, scandale, l'Occident ne reconnaît pas le résultat de l'élection. Ah, M. Yanukovych, non, non, c'est pas possible, c'est triché, voilà. Alors, c'est un phénomène qu'on a vu ailleurs. Là, c'était quand même un peu gros, c'était, en plus, le résultat était relativement serré, mais on décrète que ce monsieur n'a pas gagné. Alors, je veux dire, c'est tellement courant maintenant, quand on a décrété que c'était M. Guaido qui avait gagné les élections présidentielles en Venezuela, on allait encore plus loin dans la comédie, dans le faux. Bon. Donc, on dit, M. Yanukovych n'a pas gagné. Alors, M. Yanukovych, il est embêté parce qu'il voit que la pression est considérable. Il n'est pas pro-russe, mais il s'entend bien avec la Russie. Il a ses affaires, il est très très riche, c'est un milliardaire déjà, c'est un oligarque. On est entre les deux, on n'est ni pro-américain ni pro-russe, mais on est là, quoi, laissez-nous tranquille. Et en fait, il accepte, alors là, on est dans une situation complètement extraordinaire, il accepte qu'il y ait un troisième tour qui n'est pas prévu. Il accepte, bon, considérons alors. Allez, je vous écoute. Bon, vous dites que j'ai perdu, c'est pas vrai, mais enfin, bon, je vais pas vous faire de peine, on va pas se fâcher, on va pas s'entretuer pour ça. On refait un troisième tour. Miracle, miracle. Évidemment, son opposant, M. Youchenko, qui est une espèce de clown sur le modèle de Zelensky, donc c'est une créature fabriquée à partir de rien du tout en Occident. Ce M. Youchenko gagne au troisième tour qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ouais, vous voyez le niveau de comédie qui a été nécessaire pour faire avancer cette histoire ukrainienne. Alors, il se trouve que ce monsieur Yushchenko gagne. Il est appuyé par une dame qui s'appelle Madame Timoshenko, qui est aussi une autre oligarque, qui va se signaler par la manipulation du gaz russe. C'est-à-dire qu'elle va à un moment donné, pour montrer qu'elle est puissante et qu'elle n'est pas d'accord avec les Russes, fermer le robinet du gaz russe, c'est-à-dire priver une bonne partie de l'économie des pays de l'Ouest de l'Europe de gaz russe en plein hiver. Voilà. Alors, ce genre de comportement, bon, je ne le qualifie pas, mais c'est du gouvernement, c'est du banditisme au niveau de l'État, c'est rien de plus que ça. Hein. Je ferme mes robinets, je mets dans le froid et dans la gêne des millions de personnes, ça m'est égal, je fais ça pour faire avancer mes affaires. Bon, ces affaires, d'ailleurs, c'est d'avoir des recettes sur le transit du gaz. Bon, je passe par un personnage inintéressant du banditisme bourgeois de grand niveau. De grand niveau. Niveau de banditisme, entendu, c'est pas le bon niveau, de grand niveau de banditisme. Et finalement, il y a de nouvelles élections présidentielles en 2010, et M. Yanukovych passe à nouveau. Il passe à nouveau parce que, en gros, ce partage, vous voyez, de 52-48 ou 51-49, il est toujours présent parce que ce pays n'existe pas. C'est deux morceaux qui ont été collés ensemble un peu de force. Et donc, il devient président. Mais alors, c'est absolument inacceptable pour la partie occidentale, pour les États-Unis. Ça y est, on y était presque. On avait mis en place M. Yushchenko, Mme Timoshenko, et toute cette équipe-là, et puis on n'y arrive pas. Et c'est encore lui qui repasse, le pro-russe, hein, alors qu'il est surtout intéressé par ses affaires, le pro-russe, parce qu'il ne veut pas se fâcher avec la Russie, parce qu'il y a des intérêts, il est russophone, etc. Bon, tout ça, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Bon, eh ben, on va essayer de faire tomber M. Yanukovych. Alors, pour faire tomber M. Yanukovych, eh ben, il faut continuer à investir dans les relations publiques, dans le travail souterrain, dans la propagande et tout, en s'appuyant en particulier sur les oligarques ukrainiens, parce que cette catégorie d'oligarques ukrainiens est très très importante à connaître, parce qu'ils se sont partagés, dans le partage des dépouilles de l'économie soviétique, il est émergé toute une série de grands milliardaires qui sont milliardaires que du fait qu'ils ont volé le bien public. C'est rien d'autre que ça. Alors, M. Porochenko, dont on parlera peut-être, qui sera à la tête de l'Ukraine jusqu'en 2019, et lui, le magnat, il est surtout dans les affaires d'alimentaire, mais d'autres sont le magnat de l'acier, d'autres sont le magnat du gaz, d'autres, bon, le magnat du blé, etc. Donc, ces personnages-là, ce sont tous des voleurs, des milliardaires voleurs. Mais après tout, est-ce que tous les milliardaires ne sont pas des voleurs? C'est une question que je laisse pour une autre émission. Tous ces personnages-là se remplissent les poches avec le bien public, le bien soviétique, le bien socialiste construit par la société soviétique de l'époque. Et ils sont épouvantables, c'est-à-dire qu'ils ont la morgue, l'indécence des nouveaux riches. Regardez, nous en avons plein les poches. Et ils vont circuler, on va les retrouver sur la Côte d'Azur, on va les retrouver sur la Costa Brava, on va les retrouver dans certaines îles des Antilles et tout, où ils jettent l'argent par les fenêtres, ils boivent de la vodka, ils cassent la vaisselle dans les hôtels. Des personnages abjects, pas intéressants du tout. C'est ça qu'a produit le capitalisme sur l'Ukraine, c'est-à-dire une richesse réelle, des ressources réelles, des capacités de la main-d'œuvre du travailleur ukrainien réel, capacité très très avancée, une bonne main-d'œuvre très bien formée, des capacités industrielles fortes, tout ça entre les mains d'espèces de gangsters sans intérêt. Mais ça, c'est la façon dont l'Occident capitaliste fonctionne. Et nous voilà donc dans cette période qui se passe entre 2004 et 2014, où effectivement les États-Unis et le camp occidental est bien décidé à venir à bout de cette Ukraine et surtout de s'approcher de cette Russie affaiblie. Alors cette Russie affaiblie, elle est effectivement affaiblie, mais elle est en train, on est donc en 2004, entre 2004 et 2014, elle est en train de se transformer. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que les ambitions occidentales, le dépeçage de la Russie, le partage des dépouilles de la Russie soviétique, se sont heurtées petit à petit à une opposition du côté russe, mais petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut resituer l'évolution de l'Ukraine dans l'évolution générale de l'ex-URSS, c'est-à-dire que, en gros, de 1991, l'indépendance acquise, l'éclatement, et 2000, la Russie et les autres sont dans des états de crise économique catastrophique. En particulier en Russie, c'est dramatique. L'espérance de vie baisse de plus de 10 ans. Il n'y a plus d'enfants. On s'entretue au coin des rues. Les patrons vont assassiner les militants syndicaux. On est devenu à l'état sauvage. Quoique l'espérance de vie baisse de 10 ans, on est passé de 75 ans à 65 ans. C'est une catastrophe humaine considérable. Le pays s'écroule. Le pays s'écroule, mais il a encore du ressort, et ce ressort va s'exprimer à partir de 2000 par la prise du pouvoir, par des voies assez étonnantes, d'un certain Vladimir Poutine. Et je le dis parce que ce personnage qui est présenté comme une espèce de diable dangereux, etc., c'est le personnage qui a remis son pays en état de marche. Il l'a pris dans un état catastrophique. Il l'a pris parce qu'il a travaillé avant de devenir président, ce qui devient en 2000. Il a travaillé quand il est revenu d'Allemagne, où il était donc représentant, il était salarié du KGB, pour être tout à fait simple. Il a travaillé dans l'état-major d'Helsinki et il a vu effectivement ce qui s'y passait. Et il s'est dit, mais mon pays est en train de se détruire. Et donc, il a une réaction de patriote, pas plus, hein, il dit pas plus que ça, mais c'est fort. Et il sait derrière tout ce qu'il y a. L'URSS a été grande, elle a fait des tas de choses, la Russie a eu aussi des beaux aspects. Tout ça, il en est le porteur, et il dit, il faut, je veux sauver mon pays de la déchéance et peut-être du découpage en petits morceaux, c'est-à-dire il a bien compris qu'il y a des appétits féroces des États-Unis pour découper la Russie en petits morceaux et s'approprier les petits morceaux les uns après les autres en y mettant des gens à sa solde, à leur solde des États-Unis. Et voilà donc le climat nouveau. Alors ce climat nouveau, Poutine le perçoit et le comprend parce qu'à un moment donné, il va dire « je ne vais pas me fâcher avec l'Occident, ils me veulent du mal, ils nous veulent du mal, mais en même temps ils sont très puissants, ce n'est pas la peine de les prendre de front, je n'ai pas les moyens de m'opposer ». Il dit ça en 2000. Et donc il va même rentrer au G7, on va faire rentrer Poutine au G7. Alors ça devient le G8, mais en fait les observateurs qui connaissaient disaient « non, ce n'est pas le G7, c'est pas le G8, c'est le G7 plus 1 ». Parce qu'on a essayé de le garder de notre côté, d'éviter qu'il prenne trop d'importance tout seul et tout. Et puis il va vite comprendre, en particulier avec l'arrivée des nouveaux États autour de la mer Noire, il va vite comprendre que l'objectif, c'est bien effectivement de manger la Russie et de la découper en petits morceaux. Alors il le comprend, et puis mais il sait, quand il comprend ça, c'est aux alentours de 2006-2007, il prononce un discours très très connu à Munich, la fameuse conférence sur la sécurité de l'Europe, et il dit, maintenant ça suffit, je vous ai vu venir, j'ai compris, j'accepte plus. Ah, alors il accepte plus, oui il accepte plus, mais enfin il dit ça, mais il a encore une armée relativement faible, il n'a pas encore rétabli les capacités économiques et industrielles de la Fédération de Russie, il est encore temps de faire un nouveau coup d'État. Et ce nouveau coup d'État, il se prépare, et il a lieu en 2014. Coup d'État donc fabriqué, orchestré par le département d'État, donc par le ministre des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères de Washington, à telle enseigne que directement, alors il est venu toute une série de visiteurs importants pour favoriser les éléments qui contribueront au coup d'État, mais on a la numéro 2, je crois, je ne sais pas si elle est numéro 2 ou numéro 3, Madame Victoria Nuland du département d'État, donc le quasi-ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui est sur la place centrale de Kiev et qui encourage les manifestants contre le gouvernement pour le renverser. Ça c'est des faits établis, connus, etc. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est-à-dire que c'est les États-Unis qui ont fabriqué un coup d'État pour faire tomber M. Yanukovych, qui est encore au pouvoir, parce qu'il a encore gagné les élections, c'est insupportable, c'est donc un soi-disant pro-russe qui veut pas que son pays rentre dans l'OTAN, alors que beaucoup de préparatifs sont en cours, là, qui voudrait trouver un équilibre. Équilibre impossible, puisqu'en fait il est à la tête d'un État qui, je rappelle, est un État qui n'existe pas. C'est un État fait de deux morceaux qui ne peuvent pas cohabiter. Au long terme, alors ils peuvent cohabiter par un moment parce qu'il y a un camp qui domine l'autre ou une puissance qui domine les deux, mais qui ne peuvent pas, ils n'ont rien à faire ensemble, en fait. Bon, c'est ça qui est important. Et il vaut mieux qu'ils vivent séparément. Bon, mais ça, c'est mon point de vue. Et donc, voilà, on a le coup d'État de Maïdan qui arrive. Coup d'État de Maïdan, alors que c'est très simple, on fait manifester des gens pendant des mois et des mois, Madame Nuland vient distribuer des sandwichs, des pop-corn, des hamburgers aux manifestants, qui sont de son côté principalement, et puis, comme ça n'avance pas, on va caser dans les chambres d'un grand hôtel qui donne sur cette place, un certain nombre de tireurs, des snipers, comme on dit, qui vont tirer à la fois sur la police et à la fois sur les manifestants. Et donc à partir de ce moment-là, ça déchaîne donc toutes les violences possibles, la police désemparée, tire dans le tas. Dans le tas, il y a effectivement. Alors, il y a sur la place les militants donc de la droite ukrainienne, donc de la droite raciste, antisémite et tout, qui sont là, qui eux veulent le pouvoir. Ils savent que les États-Unis attendent de leur donner le pouvoir. Ils sont là. On s'entretue gentiment sous la bénédiction des États-Unis sur la place. Et M. Yanukovych, au dernier moment, saute dans sa voiture au moment où les manifestants donc, qui lui sont hostiles vont probablement lui tirer une balle dans la tête, saute dans sa voiture et s'enfuit en Russie. Il s'enfuit en Russie, il arrive in extremis à passer la frontière et on dit qu'il a été sauvé par des voitures des services secrets russes qui sont allés l'arracher à ses poursuivants, sinon probablement M. Yanukovych serait mort en route. On en était là, c'est-à-dire élimination de ce monsieur qui n'est pas un personnage en soi intéressant, mais qui était quand même assez conscient du fait que l'Ukraine avait de bonnes, au moins la partie de l'Ukraine dont il était le représentant, il était à la tête d'un parti qu'on appelait parti des régions, hein, et donc en particulier une partie de sa région, et il avait la confiance électorale d'une partie de la population ukrainienne, et pas évidemment pas de l'autre. Nous voilà donc en 2014. Et donc arrive à la tête de cette Ukraine nouvelle, un pouvoir qui est proche des États-Unis, avec des sélections d'un certain nombre de personnages qui ont été sélectionnés directement par Madame Nuland, en disant « lui je le veux, lui je le veux pas ». Enfin, on a des témoignages, puisqu'une de ces conversations téléphoniques a fuité, et on sait que c'est elle qui a dit à l'ambassadeur des États-Unis sur place, qui était chargé d'organiser concrètement les actions, « lui on le prend au gouvernement, lui il faut le prendre, etc. » Bon. Et on fait un mélange, et dans ce mélange-là, il y a, alors, d'une part, un banquier pour faire fonctionner les affaires, au profit des banques d'ailleurs, et puis tous les néo-nazis qui sont toujours là, parce qu'ils ne sont pas tous morts, pas du tout, qui sont restés néo-nazis, qui vont faire partie des bastions de l'appui logistique au gouvernement. Ils ont été sur la place, ils ont tué des manifestants pro-russes, pro-Yanukovych, etc. Donc ils sont là, et ils vont s'installer. Pas directement au pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un nazi affiché d'un groupe nazi qui sera Premier ministre ou qui sera ministre de ceci ou cela, mais ils sont partout, ils sont dans tous les bureaux, ils interviennent, ils prennent des mesures, ils font des menaces sur telle ou telle personne qui leur paraissent pas conformes à leurs opinions, etc. Donc les nazis sont dans le pouvoir. Profondément dans le pouvoir, et ils sont capables même de décourager quelqu'un qui serait un peu dans le pouvoir, mais qui serait quand même un peu plus tolérant, de le menacer, voire de le liquider s'il n'est pas assez discipliné à leurs yeux. C'est ça l'Ukraine d'après 2014. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces néo-nazis et les États-Unis avec, puisqu'il s'agit bien toujours de grignoter la Russie et ses richesses? Ils veulent aussi s'approprier les régions de l'Est qui sont restées fidèles à Yanukovych jusqu'à ce qu'il soit rejeté par les manifestants, qui sont restées fidèles à leur langue russe et qui disent, au moment où le coup d'État a lieu, nous ne reconnaissons pas le coup d'État. Et ils ont tout à fait raison, puisque c'est un coup d'État réel et que personne n'a jamais émis le doute sur la réalité de que ce soit un coup d'État. Ils disent, mais nous n'en voulons pas. Et donc, ils déclarent, les deux provinces dont on parle, qu'on appelle le Donbass, en rassemblant les deux, déclarent refuser de participer à l'opération du gouvernement issu d'un putsch et organisé par l'étranger. Bon. Et donc, ils n'exercent jamais que le droit à l'autodétermination des peuples. J'insiste là-dessus. Parce que quand on vous présente le conflit ukrainien vu par la grille de lecture de la Charte des Nations Unies, on oublie de souligner ce qui est de la plus extrême importance, que dans la Charte des Nations Unies, il y a deux aspects qui, à certains moments, peuvent être contradictoires. Le premier aspect, c'est le respect des États et de leurs territoires et de leurs frontières. Parce qu'effectivement, un État n'a pas le droit d'envahir un autre. Le deuxième aspect, c'est le droit de chaque peuple à l'autodétermination. Et quelquefois, il y a contradiction entre les deux principes. Mais les deux principes sont à l'intérieur même de la Charte des Nations Unies. Et quand les républiques, donc les populations du Donbass, disent « nous, on veut exercer notre droit à l'autodétermination » et donc il y a des référendums qui sont organisés, on ne veut pas être dans un gouvernement issu d'un coup d'État, un gouvernement qui est tenu par des nazis et un gouvernement qui nous veut du mal et qui va nous interdire de parler notre langue qui est le russe depuis très très longtemps, depuis des siècles. C'est ça qui s'est passé de 2014 à 2022, c'est-à-dire qu'il y avait des provinces qui étaient juridiquement dans l'Ukraine, qui ne voulaient pas y être, qui voulaient exercer leur droit de l'autodétermination, et il fallait trouver une solution autant que possible non guerrière, j'insiste là-dessus, autant que possible, pour que cet arrangement se fasse. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il y a eu des propositions qui sont appelées les accords de Minsk. Qu'est-ce que c'est que les accords de Minsk? C'est des accords qui, sur le papier, disaient en fait ces populations de l'Est russophones, qui sont attachées à leur rapport à la langue russe, à leur rapport avec la Russie voisine, veulent avoir, sont d'accord pour rester ukrainiennes, elles le sont en droit du point de vue des territoires et des frontières actuelles, mais elles veulent avoir une large autodétermination. Et effectivement, pendant que ces deux traités, puisqu'il y a eu deux versions, Minsk 1, Minsk 2, est mis en place pour dire, ben voilà, ça serait ça la solution, qui serait une solution non guerrière, non belliqueuse, une grande autonomie donnée aux régions de l'Est, russophones et à leur population. Et il y a en fait tout le contraire qui est en préparation, c'est-à-dire que dès l'instant où ces républiques disent, on ne veut pas obéir à un gouvernement qui est issu d'un coup d'État et qui nous déteste, on ne veut pas, à ce moment-là, ce gouvernement ukrainien tire sur ce qui sont encore des citoyens ukrainiens et pendant 8 ans, de 2014 à 2022, le gouvernement ukrainien bombarde des citoyens de nationalité ukrainienne quotidiennement. Parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent rester russophones, ils veulent rester en paix dans leur région, Et ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient devenir russes. Ils veulent rester ce qu'ils sont depuis très très longtemps. Et c'est là qu'on a affaire à nouveau à ces deux pays, c'est-à-dire qu'on a au fond ceux de l'Ouest qui à nouveau veulent plier et veulent imposer leurs lois à ceux de l'Est parce qu'ils pensent que cette fois-là ils ont gagné. Alors c'est pas eux qui ont gagné, c'est en fait les États-Unis qui ont gagné le droit de faire exploser l'Ukraine. Alors gagner le droit de faire exploser l'Ukraine, ça veut dire quoi? Ça veut dire non pas faire exploser l'Ukraine, mais la garder pour tout ce qu'elle est et en particulier la garder pour toutes ces richesses qui sont dans l'Est. Car bien entendu, soyez bien conscients de ceci, les richesses du territoire ukrainien qui sont convoitées par M. Trump et tous ses amis milliardaires et tout, elles sont autour dans le Donbass. C'est là que sont les mines de fer, c'est là que sont les mines de charbon, c'est là qu'étaient les usines sidérurgiques les plus pointues, c'est là qu'étaient les centrales nucléaires les plus importantes. Donc c'est ça qu'il faut croquer. Il faut être comme un rapace, se jeter sur cette proie. Et la proie en Ukraine, elle est à l'Est. Et c'est ça qui est inacceptable. Et c'est pour ça que de 2014 à 2022, quotidiennement, l'armée ukrainienne tue des citoyens ukrainiens qui veulent rester dans une démocratie qui les respecterait. C'est ça qui se passe et c'est ça qu'on ne veut pas nous expliquer. Et c'est ça qu'il est dramatique que des républiques comme la nôtre aient passé leur temps à le masquer. Alors elles l'ont masqué. Je m'arrête, c'est connu, mais en fait, sur le fait que les accords de Minsk n'ont pas été, ils ont été signés par la Russie, ils ont été signés par la France et l'Allemagne, ils ont été présentés au Conseil de sécurité de l'ONU qui les a validés, j'insiste, le Conseil de sécurité de l'ONU a validé, c'est-à-dire il a considéré que c'était la voie de sortie du conflit ukrainien sans bain de sang. Or, en fait, et M. Hollande l'a avoué après Mme Angela Merkel, il s'agissait pendant ces 8 années de donner à l'armée ukrainienne, donc de l'Ouest, l'armée donc pro-américaine et entretenue par les Américains, les moyens militaires d'écraser la population du Donbass ou de la chasser définitivement en Russie. Donc de se réapproprier ces provinces qui ne voulaient pas du gouvernement issu du coup d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est installé toute une série de bastions, ici et là, pour que ces deux républiques du Donbass soient encerclées par l'armée ukrainienne et qu'au moment où il serait décidé qu'il fallait en finir, à partir de cette ligne de front, qui était déjà inscrite dans le terrain, dans des fortifications, dans des systèmes d'approvisionnement, dans des voies ferrées, etc. Au moment où l'Ukraine le déciderait, au moment où, donc, où les États-Unis le décideraient, effectivement, la liquidation du Donbass et de son peuple serait entamée. Ce moment-là était prévu, on l'a senti arriver dans les débuts de l'année 2022. Et un beau jour, M. Zelensky, qui était arrivé au pouvoir en 2019, je le rappelle en disant qu'il fallait la paix, bravo le numéro de clownerie sinistre, M. Zelensky avait déclaré le vendredi avant l'intervention russe en Ukraine, avait déclaré qu'il allait, s'il fallait, utiliser l'arme nucléaire. Alors je m'arrête là-dessus parce que l'arme nucléaire, c'est un vieux sujet qui a été beaucoup suivi par les États-Unis au moment de la chute de l'URSS. Les armes nucléaires de l'URSS étaient installées sur le territoire de la Russie actuelle, sur le territoire de la Biélorussie, sur le territoire du Kazakhstan et sur le territoire de l'Ukraine. Il n'y en avait pas ailleurs, il n'y en avait pas en Tadjikistan, il n'y en avait pas au Kyrgyzstan et tout. Ce n'était pas considéré comme la ligne de front. Au moment où l'URSS se dissout, les États-Unis et la Fédération de Russie sont d'accord pour qu'effectivement les armes nucléaires dans ces pays-là, qui sont des armes nucléaires russes, donc tout l'état-major et le quartier général étaient à Moscou, ce n'était pas ni à Kiev ni à Minsk. Bon, ces armes doivent être rendues à la Russie, qui prend la suite diplomatiquement et juridiquement de l'URSS. Donc, pour le Kazakhstan, ça ne pose pas de problème. Ils disent, OK, prenez-les, on n'en peut plus, on s'en passe, on signe le traité de refus de l'arme nucléaire. Pour la Biélorussie, ça se passe très bien, parce qu'entre-temps, ce que je ne l'ai pas dit, le traître biélorusse, M. Shushkevitch, qui a dans la forêt, avec ses complices Kravchuk et Eltsine, décidé tout seul de la disparition de l'URSS, il a été remplacé par un M. Loukachenko, qu'on n'aime pas en Occident, mais qui se trouve être à la tête d'une économie reconstituée, assez prospère, populaire et assez socialiste dans ses façons de fonctionner, ce qu'on ne dit pas, parce qu'on lui veut du mal, évidemment. Donc, M. Loukachenko dit, évidemment, je les rends, il n'y a pas, y a aucun problème là-dessus, je n'ai pas envie d'être une puissance nucléaire, ce n'est pas mon problème. Bon. Et donc, il les rend. Et l'Ukraine se fait tirer l'oreille, et il faut qu'on en arrive à une réunion qui se tient à Budapest, pour que les dirigeants ukrainiens de l'époque, donc le président Kouchma, finissent par accepter de rendre les armes nucléaires, mais en disant, oui, mais comme je n'ai pas d'armes nucléaires, et comme je me méfie de la Russie, ça veut dire je me méfie parce que moi, je suis dans le camp des Américains, et donc si je suis dans le camp des Américains, ben, les Russes peut-être ne vont pas m'aimer, donc j'aimerais bien avoir des armes nucléaires, non pas pour me défendre contre les États-Unis, mais pour me défendre contre mes frères, enfin, j'utilise le terme à tort, mes voisins russes. Et ça, personne ne voudra, ni la Russie, ni les États-Unis, donc on leur fera croire non, qu'ils seront protégés, c'est ça le fameux mémorandum de Budapest, mais surtout qu'ils n'aient pas l'arme nucléaire. Ceci étant, ça se passe le vendredi, je crois qu'on est le 14, 23, 3, 4 jours après, la Russie décide de rentrer en guerre et de rentrer sur le territoire ukrainien parce qu'elle a compris que non seulement M. Zelensky était déchaîné, mais qu'il envisageait même de recourir à l'arme atomique, et ça, il n'en est pas question. Bon. Et donc, ce que j'insiste, et on va terminer là-dessus, si vous voulez, c'est que ce qui s'est passé, l'opération militaire spéciale, est une réponse à une politique de longue durée menée par les États-Unis et qui n'est peut-être pas finie au jour où je vous parle, mais qui a un sérieux coup de plomb dans l'aile, j'allais dire, parce qu'effectivement, il s'agissait bien de s'emparer, de casser la Russie, d'en faire des petits morceaux et de s'approprier toutes ses réserves et tous ses trésors. C'est-à-dire l'accomplissement de la politique qui a été annoncée dès le début du XXe siècle et qui s'est poursuivie sans discontinuer, et qui s'est poursuivie d'autant plus qu'en 90-91, quand l'URSS disparaît, la Chine n'est pas encore dans l'état où elle est aujourd'hui, et les États-Unis considèrent que désormais, ils sont les seuls maîtres du monde et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Alors ils vont le faire un peu, ils vont le faire en Yougoslavie, ça sera une bonne leçon à bien méditer, ils vont le faire évidemment au Moyen-Orient, donc on a les révolutions, le printemps arabe, des tas de choses comme ça, et l'URSS a fini par comprendre, la Russie a fini par comprendre, et la Russie a fini par se doter d'un pouvoir qui se redonne de la force et qui est en capacité de résister militairement. Ce n'était pas acquis début 22. Mais il est clair que, vu ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, et qu'on voit en particulier dans les derniers événements dans la région de Koursk, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armée russe, remise sur pied, réarmée, avec des grandes avancées dans les techniques de guerre, dans la maîtrise de tout l'armement nouveau, genre les télécommunications, les drones, etc., là, l'armée russe est dans un état qui fait d'elle la meilleure armée du monde, face à laquelle les armées de l'OTAN sont en retard. N'allez pas chercher plus loin pourquoi M. Trump est en train d'essayer de renouer des relations normales avec la Russie. Ce n'est pas qu'il l'aime, mais il sait qu'aujourd'hui, il n'a plus la capacité, quand il dit « il faut que l'Amérique redevienne grande », c'est qu'il avoue qu'elle ne l'est plus. Et que donc, face à un adversaire qui, lui, a démontré puissant, qui n'a pas d'ambition, quand on est à la tête de la Russie, 17 millions de kilomètres carrés, avec tout ce qu'il faut sur le territoire, qui serait assez fou pour aller faire la guerre à l'Ukraine, à la Pologne? Qui serait? Personne n'est assez fou. Alors, cette idée-là, il faut que nous la sortions de notre tête. Personne n'est assez fou. La Russie est en position forte militairement. L'Ukraine n'a plus de raison d'exister en tant que tel, c'est-à-dire que ceux de l'Est qui voudront devenir des sous-citoyens à la mode polonaise ou autre pourront l'être, mais de toute façon, le reste, ce qui va se faire, le pays va se partager suivant une ligne de partage qui est sur toutes les cartes électorales qui existent depuis 3 siècles, c'est-à-dire qu'il y avait 2 morceaux de l'Ukraine, il y a un des morceaux qui va passer du côté de la Russie. Il est déjà en partie, puisque plusieurs républiques ont déjà voté par référendum leur rattachement à la Russie, les républiques du Donbass et puis les autres, donc de Zaporoïe et Kherson. Bon. Et donc ça ne fait pas l'ombre d'un doute, il y aura une Russie agrandie, avec l'accord des populations concernées, et il y aura quelque chose qui restera avec les restes du nazisme, du bandérisme, de l'extrême droite, la plus corrompue, la plus pourrie qui existe, et ce n'est pas le meilleur héritage que l'Occident puisse avoir dans cette région-là du monde. Mais l'Occident est pour beaucoup dans le maintien et dans le pouvoir qu'il a donné à ces personnages et à cette idéologie réactionnaire. Je dis par là, et je le réaffirme, que quand Vladimir Poutine dit qu'un début de l'opération militaire spéciale est d'éradiquer le nazisme, il a raison. C'est-à-dire que le nazisme est toujours là, il n'a pas été détruit. La prise de Berlin en 1945 n'a pas suffi, l'opération est à recommencer. Et pourquoi le nazisme a continué? Parce qu'il a été entretenu, je redis ce que j'ai dit, par les États-Unis, qui ont besoin de ça comme d'un outil. Bon, c'est un outil pas très propre, mais nous, on est une grande démocratie, enfin je parle à l'américaine, on est une grande démocratie, donc peu importe, on utilise ici les terroristes afghans, on utilise là les bandéristes et les néo-nazis ukrainiens, c'est pas grave, nous on est au-dessus de ça. Vous n'êtes pas au-dessus de ça. Vous êtes complices de tout ça, vous êtes les organisateurs de tout ça. Le monde qui s'organise sous nos yeux sera assez différent de celui que vous souhaitez, qui n'est pas très propre. Merci de votre attention et on se retrouvera bien sûr sur Radio Galère très régulièrement. Au revoir.
Chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur.